Purière, 17 juin 1984, première conférence.
En l'honneur de la très sainte Trinité, nous allons continuer le mystère de la charité. Je crois que c'est mieux. Puis peut-être demain, on commencera les voies d'existence sur Dieu. Nous étions restés la dernière fois, me dit-on, parce que moi j'ai oublié, sur les différents effets de la charité. Toujours se rappeler. Nous avons maintenant à étudier l'acte de la vertu de charité. D'abord l'acte principal qui est l'amour de dilection. Ensuite les autres actes ou effets dont il est la source. Donc l'acte principal c'était la dilection et vous vous souvenez cette question importante s'il vaut mieux être aimé ou aimé. Cette chose très importante au point de vue de notre vie spirituelle. Ah, vous voulez ça? J'oublie ces choses-là. Ensuite, la joie qui est la propriété de la charité. La paix et la miséricorde. Il faut bien voir successivement le point de vue de la joie et le point de vue de la propriété. Le point de vue de la joie et le point de vue de la paix qui sont liés à la charité d'une façon très immédiate. Tout acte de charité apporte une certaine joie et apporte une certaine paix intérieure. Ça ne veut pas dire que c'est toujours ressenti, hein, faisons attention. Ça, il faut bien comprendre. On est devant un mystère qui est vécu dans la foi. Et donc, un mystère qui implique toujours notre bonne volonté et notre volonté d'aimer. C'est la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain, il est aussi volontaire si cet amour va jusqu'au bout. L'amour humain s'éveille d'abord par le point de vue passionnel. Alors on pourrait dire qu'à ce moment-là, au niveau de la passion, le sentiment d'aimer et l'amour ne font qu'un. C'est le point de vue sensible. Ça, c'est le point de vue passionnel. Et ce point de vue passionnel est lié à l'amour instinctif, à l'instinct, l'appétit naturel. Et puis, il y a un amour imaginatif, un peu romantique. On se laisse aller à des rêves étonnants. Bon, le planeur, il se laisse aller tout doucement. Et puis, il y a l'amour spirituel, cette volonté d'aimer, qui, au point de vue humain, est toujours consciente. Cette volonté d'aimer s'accompagne, ou elle est un amour, et elle implique normalement un certain sentiment d'aimer. Non pas un sentiment passionnel, mais un sentiment intérieur. Quand les gens disent « j'ai un certain sentiment pour cette personne », vous voyez très bien ce que ça veut dire. Hein? Alors on essaie de voir si c'est au niveau passionnel ou si c'est un peu plus profond. Au niveau passionnel, très bien. Ça ne dure pas toujours. Parce que la sensibilité change. Tandis que c'est au niveau plus profond, au niveau volontaire, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Alors ce qu'il faut comprendre, toujours, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est bon de le reprendre tout le temps, c'est que l'amour regarde l'individu et la personne. Au niveau de l'amour, vous ne pouvez pas faire la distinction entre individu et personne. C'est la personne qui aime et c'est l'individu qui aime. Et nous ne pouvons pas faire de distinction au niveau de l'amour. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire de distinction. Nous pouvons comprendre qu'il y a des niveaux différents. Mais nous ne pouvons pas séparer. Il y a des niveaux différents. l'amour humain, si on parle de l'amour humain, il implique toujours, pour être un véritable amour humain, il implique toujours cette volonté d'aimer, donc un amour spirituel, il implique des éléments imaginatifs, il implique des éléments passionnels, et par ces éléments passionnels, il peut impliquer des éléments sensibles, des éléments instinctifs, on dira aujourd'hui sexuels, l'appétit naturel, le saint Thomas. J'avais dit qu'il fallait bien saisir la différence entre ce langage de saint Thomas, qui n'est pas le langage du tout du monde d'aujourd'hui. Ce langage demeure vrai. Il est difficile à bien expliquer, mais il demeure vrai. Nous, aujourd'hui, nous sommes pris par un langage psychologique. Ça, c'est évident. On est saisi par un langage psychologique. Alors, quand on est pris par un langage psychologique, on risque d'oublier un langage plus profond, qui n'est plus à ce même niveau. Le langage psychologique reste au niveau du conditionnement, au niveau des sentiments que nous pouvons ressentir, de l'amour que nous avons pour quelqu'un, des liens qui peuvent exister entre deux individus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout amour humain implique ces quatre éléments. Je dis bien le point de vue instinctif, le point de vue passionnel, le point de vue romantique, imaginatif, et puis le point de vue spirituel. Tout amour humain implique ces quatre éléments. Il ne peut pas y avoir un amour humain sans ces quatre éléments. Mais comme il y a quatre éléments, la synthèse est différente. Bon, on pourrait avoir un amour dans lequel l'amour romantique domine. Dans l'amour romantique humain, il y a toujours quelques éléments volontaires et spirituels. Il y a des éléments passionnels, c'est bien évident, et il y a des éléments instinctifs. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir un amour purement érotique. Alors à ce moment-là, on est au niveau purement instinctif. C'est ça qui domine. Il peut rester humain dans la mesure où, justement, cet amour n'est pas uniquement érotique, ordonné à la jouissance. Alors, il reste humain en ce sens qu'il y a d'autres éléments dedans. Parce que c'est toujours l'homme, c'est toujours l'individu qui aime. On ne peut pas séparer au point de vue de l'amour. L'amour regarde le sujet, hein, l'homme dans son unité. Mais on peut très bien discerner, voyez, les éléments dominants. Et à ce point de vue-là, bien préciser quatre modalités dans l'amour humain. Aristote en dessine trois, je peux en désigner quatre. Aristote en désigne trois, il désigne l'amour d'amitié au niveau plaisir, au niveau utilitaire et au niveau le plus profond, c'est-à-dire d'aimer l'autre pour lui-même dans ce qu'il a de meilleur. Mais je peux très bien mettre un quatrième, voyez, c'est-à-dire l'amour romantique. Aristote ne le met pas. Il est tellement classique qu'il ne le met pas. Mais on peut l'ajouter aujourd'hui parce que nous sommes beaucoup plus romantiques qu'Aristote. Alors nous pouvons ajouter ce quatrième dimension qui est un amour romantique. Peut très bien se faire, vous voyez, dans un des amours de poètes. Ils sont tellement heureux de pouvoir chanter ensemble leur amour, de pouvoir le proclamer, le dire, et le dire avec leur originalité propre, n'est-ce pas ? Avec tout ce qui va exprimer ça de la manière la plus étonnante qui soit. On voit très très bien ça, l'amour romantique. Ça reste toujours un peu, hein ? Ça reste toujours un peu. Ça nous fait rire à certains moments du romantisme, quand on voit ça encore aujourd'hui, mais ça reste toujours un peu. Parce qu'il y a toujours un tout petit peu, dans tout amour, le désir de faire le pan. C'est-à-dire, là, on voit très très bien, c'est manifesté, qu'on puisse parler de nous, et que surtout la personne qu'on aime parle de nous. Alors là, c'est le chef-d'œuvre. Si elle ne nous dit rien, c'est très ennuyeux. Voilà, depuis 8 jours, elle n'a jamais prononcé mon nom. Alors vous, alors qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors on fait tout et simagrée possible pour que, de fait, ça que je dis faire le pan qui fait la roue. N'est-ce pas? Alors on fait, il se manifeste, il veut se montrer. Mais il y a cette note-là, parce que l'imagination joue beaucoup dans l'amour. Ça, c'est évident. L'imagination joue beaucoup. Et j'allais presque dire, chez les êtres vertueux, plus vertueux, du moins qui tendent vers la vertu, les êtres plus qui tendent vers la vertu, il y a des compensations imaginatives. Ça, c'est connu, au point de vue psychologique, hein. Il y a des compensations imaginatives. Les compensations imaginatives, c'est justement le fait que ce n'est pas le point de vue de proprement le réalisme sensible et physiologique. Alors on se rattrape dans un point de vue romantique, dans un point de vue plus esthétique, quelque chose d'un peu plus. Alors comprenons bien qu'au plan divin, la charité, le mystère de la charité, qui nous fait aimer Dieu et aimer le prochain, cette charité ne détruit pas la nature, mais l'ennoblit. La charité va beaucoup plus loin que tout amour humain, puisque c'est un amour substantiel. Pourquoi l'amour érotique sexuel est-il si fort? Parce qu'il a quelque chose de substantiel. C'est toujours notre vie biologique, hein, qui a toujours quelque chose de substantiel. Elle est vécue selon un mode fondamental. Et c'est pour ça qu'elle est toujours vécue avec une telle force. Et c'est pour ça que seul l'amour divin peut arriver à dominer complètement le point de vue de l'amour érotique, sexuel. Parce qu'il est lui aussi substantiel. Puisque c'est l'amour tel qu'il est en Dieu qui nous est donné. C'est cet amour plaigné et fécond du mystère de Dieu qui nous est donné. Par la charité, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est le fruit de l'amour du Père et du Fils. C'est ce fruit qui nous est donné. C'est un amour substantiel. Et donc c'est un amour qui peut reprendre tous les autres en les purifiant. Alors là, il faut toujours bien comprendre qu'un amour ne peut être éduqué que par un amour. Vous ne pouvez pas éduquer l'amour par autre chose que l'amour. Ça, je crois que c'est extrêmement important pour nous. Autrement, on se tend. Et là, en se tendant, il y a des brisures après qui sont beaucoup plus terribles. Vous voyez, vous ne pouvez pas éduquer l'amour par la vertu. C'est bien. On a cru pendant longtemps pouvoir éduquer l'amour par la vertu. C'est tout le moralisme du XVIIe siècle qui existe encore. C'est tout le jansénisme qui fait qu'on a cru pouvoir éduquer l'amour par la vertu. C'est la faillite. Il faut bien comprendre le freudisme comme une attitude d'opposition vis-à-vis de cela. La vertu étant considérée comme un surmoi, comme la loi qui s'impose de l'extérieur et qui veut alors dresser ou éduquer l'amour. Or, l'amour ne peut pas s'éduquer par autre chose que l'amour. C'est ça qui est capital à comprendre. Si on ne comprend pas cela, on fait fausse route et on n'arrivera jamais. Alors comprenons, l'amour le plus radical qui est en nous, le plus foncier, donc l'appétit naturel au niveau sexuel. C'est ce qu'il y a de plus radical avec l'appétit naturel à l'égard du boire et du manger. surtout à l'égard de ce que nous aimons le plus, vous voyez, le chocolat ou l'alcool. Hein, ça dépend des orientations, mais ça peut être ça. Alors, c'est cet appétit naturel que nous pouvons... Ou la drogue, parce que c'est encore la même chose. Celui qui a commencé, on sait que c'est d'une violence telle qu'on n'arrive pas. Donc, ça doit toucher un appétit naturel extrêmement profond, je crois, lié à l'imaginaire. Ça doit être quelque chose... On n'a jamais étudié, pour saint Thomas, la drogue. Il n'avait pas beaucoup d'exemples. Marqué qu'il retrouve toujours des choses analogues, mais au fond, c'est quand la drogue devient quelque chose de beaucoup plus courant, on doit essayer philosophiquement de regarder qu'est-ce que c'est exactement au point de vue philosophique. Qu'est-ce que ça éveille? Qu'est-ce que ça éveille? Parce que un drogué, avant d'être drogué, il était un homme comme un autre. Et pourquoi, lorsqu'il est drogué, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qui fait qu'il a une peine énorme d'en sortir? Alors, il faut bien comprendre que l'amour divin n'est pleinement lui-même que dans le désir de contemplation. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que l'esprit de virginité ne peut exister ou ne peut se réaliser que grâce à la contemplation. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et le jour où les prêtres n'ont plus le sens du tout de la contemplation, ils réclament le mariage. Ils réclament l'union libre. Parce que de fait, il y a une insatisfaction fondamentale en eux. Si au contraire, il y a un désir de contemplation, alors la virginité est possible. Non seulement elle est possible, mais elle est... J'allais dire, elle est normale, au sens fort. Parce qu'il y a un appel d'amour substantiel, contemplatif, à l'égard de Dieu. Vous voyez, la charité fraternelle ne pourrait pas. C'est très curieux, ça. La charité fraternelle présuppose l'amour à l'égard de Dieu. Et il faut cet amour contemplatif pour pouvoir vraiment dépasser toute la puissance de l'instinct. Et je crois que pour les drogués, il y aurait quelque chose d'analogue. Mais ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode du tout quand on voit quelqu'un qui a été un peu drogué, quand il a des grâces très grandes, il les dépasse, puis il y a les lendemains, tu sais, quand les écailles tombent, hein. Alors quand les écailles tombent, c'est pas commode du tout, ça demande à ce moment-là des efforts, et très rude. Mais il faut au moins s'orienter vers la contemplation. Alors, à ce moment-là, la grâce et la charité, parce qu'ils ont quelque chose de substantiel, permettent de dépasser cet amour instinctif, cet amour sexuel, cet instinct sexuel, de dépasser aussi les passions, c'est-à-dire de les purifier sans les supprimer. Il ne faut pas supprimer nos passions. Ce serait très mauvais. Mais il faut les transformer de l'intérieur. Il faut qu'elles viennent comme les passions du Christ, des pro-passions, c'est-à-dire des passions ennoblies par un amour plus grand. Mais un contemplatif doit être un être passionné. Autrement, il ne peut pas être un contemplatif. Fils du tonnerre. Alors, il ne vaut mieux pas se trouver sur sa route au moment où il est passionné de contemplation. Ça, c'est évident. Parce que il y a tout dans son être est mobilisé pour cela. Mobilisé pour cet amour divin qui doit tout prendre. L'amour imaginatif et romantique doit être lui-même transformé, apaisé. Et quand je dis apaisé, vous voyez, ça n'empêche pas qu'à certains moments où la contemplation, qui est toujours dans l'ordre de la volonté, qui est toujours dans la foi et qui est dans l'ordre de la volonté, que nous ne la ressentons pas tout le temps, Il n'est pas étonnant alors qu'à certains moments, il y ait des revendications d'ordre psychologique. Seul un homme chaste, du moins qui tend à l'être, seul un homme qui tend à être contemplatif, peut connaître certaines revendications des instincts, des passions, que les autres ne connaîtront pas du tout de la même façon. Tant que la contemplation n'a pas tout pris en nous. Autrement dit, toute la période de formation. Et je crois que la période de formation est toute notre vie. On est toujours des novices du Saint-Esprit. Parce que ne dites pas, à 45 ans, je serai tranquille. Oh, non, non. À 70 ans, je serai tranquille. Ah oh, non, 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 pas du tout. Vous n'avez qu'à regarder dans l'Écriture. Dans l'Écriture, on voit ça à tous les âges. C'est extraordinaire. Mais le péché de David. Et pourtant, il avait eu pas mal de choses dans sa vie. Hein. Mais il y a eu ça, cette espèce de faiblesse à la fin de sa vie. C'est très beau de voir ça, parce que ça, c'est la puissance de l'amour. Tout amour vient de Dieu. C'est dit, tout amour vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout amour doit être laissé dans son exercice libre. Ah non, jamais ça a été dit dans l'Écriture. Mais tout amour vient de Dieu, parce que tout amour est un reflet de Dieu amour. Alors parce que tout amour est un reflet de Dieu amour, on peut voir à travers ces diverses modalités de l'amour quelque chose de divin. C'est très vrai. Eros de Platon, c'était divin pour Platon. Il est démoniaque cet amour, comme il dit. Il est démoniaque dans le sens où Platon l'emploie, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de l'homme, qui n'est plus uniquement humain. C'est vrai que tout amour a quelque chose de divin. Mais parce que justement tout amour a quelque chose de divin, tout amour demande d'être regardé dans la lumière de Dieu. Et donc demande d'être transformé du dedans pour arriver petit à petit à ce que l'amour divin prenne tout, assume tout et soit vraiment ce qui nous donne alors cette limpidité du cœur, qui nous donne cette force intérieure. Vous voyez, c'est très important de saisir comment l'amour divin, parce qu'il est substantiel, peut purifier toutes les formes d'amour. C'est très très important de comprendre cela. Et ceci, c'est direct. L'amour seul corrige l'amour ou purifie l'amour. Seul l'amour éduque l'amour. L'amour ne peut être éduqué que par l'amour. Et l'amour divin est éduqué par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, le grand éducateur de l'amour. L'éducateur par excellence de l'amour. Nous l'oublions trop. Et nous ne demandons pas assez à l'Esprit Saint d'être celui qui éduque notre amour. Et c'est lui qui nous apprend à aimer et à aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de prendre l'attitude justement stoïcienne ou l'attitude de Port-Royal des jansénistes. Non. Il s'agit d'avoir une attitude de vérité dans l'ordre de l'amour que seul l'Esprit-Saint peut nous donner. Je crois qu'il n'y a que l'Esprit-Saint qui nous donne à la fois cette lucidité et cette capacité d'aller jusqu'au bout. Il est le grand éducateur de l'amour. Il est celui qui nous donne ce sens. Alors on comprend comment cet amour à l'égard de Dieu va pouvoir se réaliser à l'égard du prochain. C'est le même amour dans un exercice différent. L'amour à l'égard de Dieu, il est contemplatif et il se réalise dans l'adoration, dans une adoration en esprit et en vérité. L'amour à l'égard du prochain ne se réalise pas à travers l'adoration. il se réalise dans le respect et dans un don de nous-mêmes pour faire œuvre commune avec celui que nous aimons. Et cette charité divine va purifier tous nos sentiments et va leur donner un sens nouveau, de sorte qu'on ne s'arrêtera plus à ce que nous sentons, mais on s'arrêtera à ce que Dieu veut que nous regardions. Regarder dans le cœur de notre frère l'image de Dieu. Regarder dans le cœur de notre frère l'amour de Dieu sur lui. C'est cela qu'on regardera en premier lieu. Cet amour profond de Dieu sur lui. Cet amour de charité fraternelle va se réaliser selon un mode miséricordieux. Pourquoi ? Parce que le prochain que nous aimons, c'est un être fragile. C'est un être faible. C'est un être qui, tant qu'il est sur la terre, implique nécessairement en lui des fêlures, comme il y en a en nous. En nous, nous discernerons toujours en nous deux hommes. Et c'est dans l'ordre de l'amour qu'on le distingue le mieux. On distinguera en nous toujours l'homme concupiscible, l'homme charnel, et puis l'homme spirituel, le Fils de Dieu qui est en nous. Et le combat pour aller très loin. Parce que le combat, on sait très bien que dans le Christ nous sommes victorieux, mais nous ne le ressentons pas. Nous le vivons dans la foi. Donc il y a en nous ces deux hommes. Dans la charité fraternelle, on va retrouver la même chose. Dans la charité fraternelle, on va trouver un amour à l'égard du prochain qui est tout à fait pur et qui se réalise dans la miséricorde, sans aucune rivalité. On aime l'autre pour son salut. On l'aime parce que le Christ l'aime. On l'aime en raison de toute sa grandeur, de toute sa noblesse, parce qu'il est aimé du Christ, ou parce qu'il est capable d'être aimé par le Christ. Et on peut ressentir à l'égard du prochain, du même prochain, au moment même de l'exercice de la charité fraternelle, ou immédiatement après. On peut sentir une attraction sensible, plus ou moins érotique. Et on peut très bien sentir aussi une aversion. Vous savez bien, c'est le propre de la vie religieuse, et surtout de la vie contemplative. C'est que, dans la vie contemplative, notre sensibilité se purifie. Dans la vie du monde, la sensibilité se purifie beaucoup moins. Elle s'use. C'est pas la même chose. Elle s'use, alors, parce qu'elle s'use, elle n'a pas la même force d'accrochage. Tandis qu'une sensibilité qui se purifie est une sensibilité qui a beaucoup plus de force d'accrochage. De sorte qu'il est normal que dans la charité fraternelle qui s'exerce à l'intérieur même de la vie contemplative, de la vie commune des contemplatifs, il y ait des sensibilités qui s'harmonisent profondément et des sensibilités qui s'opposent plus violemment que ce qu'on avait connu avant. Alors ne disons pas que c'est une régression, parce qu'on serait tenté de dire ça. On serait tenté de dire, mais j'ai jamais senti ça avant. Donc c'est une régression. Mais c'est comme celui qui, dès qu'il est entré au noviciat, au bout de 6 mois de noviciat, commence à penser aux oignons d'Égypte. Il n'y avait pas pensé avant, parce qu'il en avait tous les jours. Là, n'y pensait pas, ce n'est pas la peine. Mais il ne pensait absolument pas à l'heure du repas ou telle chose qu'il mangerait. On n'y pensait absolument pas avant d'entrer. Et au bout de 6 mois de noviciat, on commence à y penser. Donc, vous voyez la régression. C'est le sevrage des sens. Il y a un sevrage qui se fait au noviciat. Il y a un fameux sevrage. Plus le noviciat est rude, plus il se fait dans l'amour, et avec toutes les exigences d'un noviciat contemplatif, plus le sevrage est grand. C'est sûr. Mais quand on renvoie régulièrement les gens en famille pendant 3 mois, le sevrage est beaucoup moins grand, que voulez-vous? C'est évident. Dans les séminaires, le sevrage est beaucoup moins grand. Parce qu'il y a les vacances, et puis maintenant il y a les week-ends, tout le temps. Bon, très bien, alors le sevrage n'est pas très grand. Tandis qu'au contraire, en vie contemplative, dans la perspective de Saint Bruno, le sevrage est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus fort. Et parce que le sevrage est beaucoup plus fort, il faut bien se dire que notre sensibilité va s'affiner. Elle va s'affiner. Et parce qu'elle va s'affiner, elle va être beaucoup plus aiguisée. On sentira beaucoup plus les attraits sensibles et les répulsions sensibles. Ça n'a rien au point de vue moral, ça, hein. C'est psychologique. C'est le fricare barbam, hein, de saint Thomas. C'est le besoin instinctif que nous ressentons. C'est quelque chose d'humain. Et du fait même que notre sensibilité s'aiguise, on le ressent plus. Tant mieux. Saint Thomas nous dit que ce sont les chairs molles qui sont le propre des êtres intelligents. Alors, les chairs molles, ça veut dire qu'on a une sensibilité à fleur de peau. C'est ça, les chairs molles, hein, ce n'est pas la graisse. C'est la sensibilité à fleur de peau. Vous sentez tout. D'autres ne ressentent rien. Mais vous ressentez tout. Vous ressentez tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis vous ressentez très fort. Quelqu'un qui, oh, c'est merveilleux, celui-là, il a l'air d'aimer le Seigneur d'une façon étonnante, il m'attire, il est extraordinaire comme si. Alors on est attiré, on a une espèce de force attractive très grande vers une source. C'est bon, c'est pas mauvais du tout de sentir ça, c'est notre sensibilité qui s'aiguise. Alors il faut un amour encore beaucoup plus grand pour dépasser, assumer. Mais ça se fait nécessairement dans la lutte. Parce qu'on sent davantage les deux hommes. On sent davantage la dualité. On la sent beaucoup moins quand on est dans la gueule du démon. Alors il a son os à ronger et on ne ressent rien du tout à ce moment-là. Tandis que dès qu'on sort de la gueule du démon, par un désir d'être plus contemplatif, plus donné, être davantage novice du Saint-Esprit, à ce moment-là, on sent davantage l'opposition qui peut exister en nous entre cette exigence du vieil homme sensible qui veut son beefsteak et puis, au contraire, le point de vue spirituel qui nous fait tendre vers Dieu. Alors vous voyez que dans une communauté contemplative, la charité fraternelle prend une modalité différente. Je me souviens, c'était un bon prieur du Saulchoir, dominicain, pour ne pas le nommer, c'était un scout devant l'Éternel, parce que c'était le bon père forestier. mon père forestier, grand ami du père Doncœur, qui avait été tellement marqué par le père Doncœur. Alors, un beau jour, c'était un moment où, justement, peu de temps après le concile, où tous les rapports fraternels commençaient un tout petit peu à se demander si, au fond, il ne fallait pas avoir des... Alors, le père forestier a dit, oui, la charité fraternelle, ça s'exerce différemment sur le zinc. Et lorsqu'on est des gens qui essaient de tendre vers la contemplation. Et c'est très vrai. La charité fraternelle ne s'exerce pas de la même manière pour des bûcherons. Parce qu'au milieu de la charité fraternelle, il y a pas mal de jurons qui se disent. Alors on voit très bien ce que c'est. C'est une charité fraternelle assaisonnée, n'est-ce pas ? Et bien assaisonnée. Et une charité fraternelle qui existe... entre contemplatifs qui désirent être contemplatifs et qui travaillent ensemble et qui ne pédalent pas au même pas, mais ne le disent pas trop. Mais alors à ce moment-là, c'est très difficile, c'est pénible, parce que quand ça sort, c'est un soulagement, c'est quand même quelque chose qui se soulève. Tandis qu'au contraire, quand ça ne peut pas sortir, c'est quelque chose qui est dur, pénible. Tout d'un coup, alors, faut faire attention du reste, il faut des soupapes de sûreté. Il faut des soupapes de sûreté pour pouvoir de temps en temps ne pas dire à celle avec qui on travaille tout ce qu'on voudrait lui dire en pleine tête. On se retient le plus longtemps qu'on peut, mais on peut le dire à quelqu'un d'autre qui reçoit les éclats. C'est nécessaire. Tant qu'on est, voyez, dans l'ordre de cette espèce d'éducation, de ce laboratoire de l'amour que fait l'Esprit Saint. Il doit s'amuser beaucoup, l'Esprit Saint, de temps en temps, dans ce laboratoire de l'amour, voir comment il nous éduque, chacun d'entre nous d'une façon unique. Il n'y a pas deux voies identiques. C'est là où la psychologie est assez grosse. Parce que l'Esprit Saint est bien plus au-dessus. Hein. La psychologie, elle prend des lois communes. Donc elle est toujours un peu ingénérée. Comme dirait saint Thomas, elle est toujours dans le genre animal. Alors elle est toujours un peu la même pour tout le monde. Alors que l'Esprit Saint commence par le sommet. Il est l'éducateur par le sommet. Il est l'éducateur par le don de piété. Il est l'éducateur par le don de sagesse. Il est l'éducateur par les dons, les sept dons du Saint-Esprit, les sept modalités d'aimer. Et il éduque par le sommet, en attirant vers le sommet. Alors qui fait que tout est transformé pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, l'Esprit Saint nous éduque d'une manière unique. D'une façon unique. Alors il y a bien des petits points communs, c'est bien évident, on peut dire ça. Mais c'est toujours d'une façon unique. C'est ça qui est admirable dans l'éducation de l'Esprit Saint au point de vue de l'amour. Parce que c'est personnel et individuel. Et ça affine notre sensibilité, ça affine notre cœur humain, ça affine notre volonté, notre imaginaire, ça affine notre sensualité, nos appétits sexuels, ça les affine. C'est extraordinaire ce que fait l'Esprit Saint, parce que tout vient de Dieu en nous. Mais tout demande d'être sanctifié par la grâce. Rien n'est en dehors de la grâce. Tout doit être repris par la grâce. Nous n'avons pas le droit, dans l'ordre de l'amour, vous voyez, dans nos capacités d'aimer, il faut que tout soit repris. C'est pour ça que même notre manière de manger, notre manière de dormir, l'Esprit Saint nous éduque. Alors, n'y pensez pas trop. Parce qu'alors à ce moment-là, vous ne dormirez plus, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que l'Esprit Saint nous éduque jusque dans le point de vue de manger. Pour manger, on peut y penser. Et puis de notre manière de dormir. Parce que c'est une manière particulière dont l'Esprit Saint prend et reprend tout ce qui doit être saisi en nous. Alors, notre charité fraternelle, elle s'exerce au milieu de frères et sœurs qui sont vulnérables, qui sont fragiles, qui sont des pécheurs comme nous. Et c'est pour ça que cette charité fraternelle s'exerce avec ce mode de miséricorde. Et la miséricorde demande d'être humble et douce. Alors il faut comprendre que dans la miséricorde, nous l'avions vu, on regarde le mal du prochain, mais on le regarde dans l'amour. Il ne s'agit pas de mettre en lumière le mal de l'autre. Au contraire, par la miséricorde, on le cache. Et on doit être miséricordieux jusque pour nous. Et avoir le plaisir d'étaler nos misères. Ce n'est pas miséricordieux. Parce qu'on ne le ferait pas pour notre frère. Hein, ne le faisons pas pour nous. Et demandons à l'Esprit-Saint d'être miséricordieux pour nous. C'est très important cela. On est miséricordieux pour ses frères, on est miséricordieux pour soi. C'est-à-dire qu'on regarde le mal, puisqu'au fond le propre de la miséricorde c'est regarder le mal, c'est de compatir amoureusement à ce mal. On ne regarde plus le mal avec un regard froid. Regarder le mal avec un regard froid, ce n'est pas miséricordieux. C'est pour ça que les tests qui montrent les misères des hommes ne sont pas une œuvre de miséricorde. On regarde le mal de l'autre d'une manière aimante. Et c'est pour ça qu'on regarde le mal de l'autre comme notre propre mal. Comme quelque chose qui nous blesse. Quelque chose qui nous afflige, quelque chose qui nous détruit. On regarde le mal de l'autre comme notre propre mal. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider à en sortir. Il y a trois moments dans tout geste de miséricorde. La connaissance du mal, la compassion, compatir à l'autre, et puis mettre toute notre force à l'aider à en sortir. Ce n'est pas suffisant de compatir. Il faut compatir, faire que le mal de l'autre soit notre mal, et puis mettre toute notre force à le soulager. Alors vous voyez, être miséricordieux pour soi, c'est être suffisamment lucide pour connaître sa misère. On connaît notre propre misère. C'est d'être suffisamment aimant pour faire que cette misère ne soit plus odieuse pour nous. Nous la portons de l'intérieur, dans un grand amour. Et cette misère que nous portons de l'intérieur devient pour nous un moyen d'être unis à Jésus. Un moyen nouveau. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour sortir de cette misère. Alors nous arrivons, je crois, la miséricorde est-elle une vertu? Nous l'avions vu, ça, je crois. La miséricorde est-elle une vertu? Hein? C'est l'article 3. On l'avait vu. Oui. Alors ça, c'est une question très intéressante, nous l'avions vu. C'est une question, j'allais plus dire, plus technique du théologien. Essayez de voir si la miséricorde a quelque chose de stable. Puisque la vertu, c'est quelque chose de stable. C'est un habitus, c'est un exis. C'est quelque chose, c'est un état. Et c'est quelque chose qui nous ennoblit. Alors, je vous avais rappelé à ce moment-là ce que le philosophe parlait de la miséricorde. Aristote considérait que la miséricorde, c'était le propre des mères. Il n'y a que les mères qui, pour lui, étaient véritablement miséricordes pour leurs enfants, miséricordieuses pour leurs enfants. Mais la miséricorde, pour lui, était quelque chose qui n'était pas une vertu. C'était une faiblesse. C'est le christianisme qui a fait de la miséricorde une vertu. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le propre de la morale chrétienne. La morale chrétienne implique la miséricorde parmi les vertus. Et une vertu qui s'enracine directement dans la charité. Vous voyez, ce serait très intéressant de regarder dans les diverses traditions religieuses si la miséricorde est considérée comme une vertu. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a que dans le christianisme. Vous voyez, regardez même dans l'Ancien Testament. La miséricorde existe, c'est évident, puisque Dieu est miséricordieux. Et qu'on considère que Dieu est miséricordieux, lent à la colère, hein, ce que nous lisions aujourd'hui. Lent à la colère, tendre et bon. Mais Dieu est miséricordieux. L'homme doit devenir miséricordieux comme Dieu. Mais il est évident que la miséricorde a pris toute sa force avec le Christ. Alors à ce point de vue-là, vous voyez, la miséricorde doit nous faire découvrir ce qui caractérise le cœur blessé de l'agneau. Il est miséricordieux. Infiniment miséricordieux. Et c'est vraiment cela qui caractérise le cœur de Jésus. Parce que aucun homme n'a été miséricordieux comme lui. Et que la miséricorde, je crois, nous fait découvrir de la manière la plus profonde ce qui en nous est à l'image de Dieu. Quand vous supprimez d'un cœur sa capacité d'être miséricordieux, vous supprimez en lui l'image de Dieu. C'est ce qu'il y avait de si terrible sous le régime d'Hitler. Et tous les régimes analogues à Hitler. Vous savez qu'Hitler faisait que les jeunes, qu'on prenait à 15 ans, donc au moment où l'émotivité, où la sensibilité commence à s'épanouir pleinement. Et puis, on faisait des exercices de faire souffrir devant ces gosses des animaux. Et ils n'avaient pas le droit de réagir. Et puis après, les animaux...